On fait. Mais content d'être avec vous, d'une certaine manière, avec ceux qui sont en bas, en tout cas dans le bâtiment. Content d'avoir pu avoir un vrai culte en live sans tous ces problèmes à 9h. Et content de pouvoir regarder ensemble cette autre déclaration que Jésus a faite. Comme Joël a dit, on étudie les sept grandes déclarations de Jésus dans l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, c'est la sixième. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, on va essayer de regarder ça ensemble. Et si on devait faire un top 10 des citations les plus populaires de Jésus, des citations les plus célèbres de Jésus, des citations que les gens trouvent les plus inspirantes de Jésus, je ne pense pas que cette citation serait dans le haut de la liste. Je ne pense pas que cette citation serait vraiment quelque chose que les gens aiment et qui inspire les gens. Je pense qu'on retrouverait plutôt des phrases comme celle-ci. Ce n'est pas forcément que des phrases que Jésus a dites en tant que telles, mais par exemple, « Aime ton prochain comme toi-même ». À chaque jour suffit sa peine. Ou encore, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais cette phrase-là que Jésus a dite, elle remet en cause ce que l'on croit. Et les gens aiment Jésus pourvu qu'il ne remette pas trop en cause ce que l'on croit, pourvu qu'il ne me touche pas trop moi-même, personnellement. Mais là, si on prend le temps de bien comprendre ce que Jésus a dit dans ce passage et en affirmant ce qu'il a affirmé, on verra que ça va profondément à contre-courant de ce que le monde aujourd'hui mais en avant. Je me souviens que je parlais avec un étudiant à Louvain-la-Neuve et je lui ai dit, mais je vais te lire un verset, une déclaration que Jésus a faite et j'aimerais que tu réagisses librement, sens-toi libre de réagir comme tu veux. Comment est-ce que tu trouves ce que Jésus a dit? Et je lui ai lu ce verset de Jean 6, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Et vous savez comment il a réagi? Il a dit, ah mais c'est arrogant, c'est arrogant. Mais pour qui est-ce qu'il se prend de dire ça? Ben même si je ne partage pas la réaction de cet étudiant, je pense qu'il avait bien saisi ce que Jésus met en avant dans ces versets. Il avait bien compris le sens de ce que Jésus dit en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais on doit se demander, est-ce que cette phrase sort réellement de la bouche d'un arrogant? Ben c'est ce qu'on va voir ensemble. Le thème principal de ces quelques versets tourne autour du chemin, pas un chemin littéral, une rue ou un sentier de marche, mais le chemin pour accéder à Dieu, le chemin pour connaître le Dieu de l'univers. Et le cœur de ce que la Bible nous enseigne dans ces versets, c'est qu'il y a un seul moyen d'accéder à Dieu, c'est au travers de Jésus, de la foi en Jésus. Et on va voir comment c'est une bonne nouvelle, mais aussi une nouvelle qui confronte personnellement ce que nous on croit. Et on retrouve plusieurs raisons dans ces versets qui expliquent pourquoi Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et donc j'aimerais qu'on regarde d'abord trois raisons dans ce texte pour lesquelles Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et ensuite, dans un deuxième temps, on verra trois implications de cette réalité pour nous. Donc d'abord trois raisons pour lesquelles Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et ensuite trois implications pour nous. La première raison dans ce texte pour lesquelles Jésus est le seul chemin vers Dieu, c'est parce qu'il nous prépare une place auprès de Dieu. Il nous prépare une place auprès de Dieu. C'est ce qu'il affirme lui-même à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. » Une place où ça? Dans la maison de son Père, comme on apprend au début du verset 2. Jésus parle ici du ciel, du lieu où Dieu habite pleinement, du lieu où tous ceux qui ont cru en Jésus vivront pour l'éternité, le paradis. Dans cet endroit, il y a beaucoup de demeures parce que Jésus va y préparer une place pour ses disciples. Il n'y aura personne qui sera laissé dehors ou sur le palier. Alors j'espère que ça s'est affiché aussi le plan pour vous, je pense que tout marche. J'ai vu une réaction incertaine dans les visages, c'est difficile avec les masques de comprendre, mais je pense que tout va bien et qu'on continue. Donc Jésus dit qu'il va préparer une place pour ses disciples, que personne ne sera laissé dehors sur le palier, ça c'est une bonne nouvelle. Mais Jésus ne dit pas ici qu'il va préparer une place pour ses disciples comme on prépare l'arrivée d'un invité chez nous. Quand il y a un invité qui vient chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on range la maison, on met la poussière sous le tapis, enfin peut-être pas sous le tapis, on fait l'aspirateur plutôt, ce serait mieux pour préparer l'arrivée des invités. On met les coussins bien sur le canapé, on met la table, on prépare le lit. Voilà, tout est prêt pour que les invités arrivent. Mais c'est pas ce que Jésus dit là, ici, à ses disciples, comme si depuis 2000 ans, il était occupé à ranger le ciel pour que ça soit vraiment en ordre quand nous on arrive. Non, c'est pas ce que Jésus met en avant. Si on prend le contexte plus général de ce passage, ça nous aide à comprendre en quoi Jésus nous prépare une place. On est à la fin du ministère terrestre de Jésus, et Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait partir. Il est sur le point d'être arrêté et crucifié. En fait, on est dans le discours d'adieu de Jésus à ses disciples, ses dernières paroles. Il va partir et il dit à ses disciples que ce départ va lui permettre de leur préparer une place. « Je vais vous préparer une place. Comment ?» Ben, au travers du chemin qu'il va prendre, qui va le mener jusqu'à la croix. Parce que sur cette croix, Jésus va justement permettre à ses disciples d'avoir une place au paradis, une place dans la présence même de Dieu. Il y a un fossé énorme qui sépare les êtres humains de Dieu, notre cœur mauvais, notre rébellion, nos péchés. Et livrés à nous-mêmes, on n'a aucun moyen d'entrer au paradis, aucune place qui nous est réservée au paradis, aucun droit d'entrer au paradis. On est plutôt que d'être dans la présence de Dieu, on est sous le coup de son jugement. Parce qu'aucun de nous ne s'approche de la perfection, pas même de quelques centimètres, pas même de quelques mètres. On est tellement loin de la perfection. Mais en mourant sur la croix, on sait que Jésus prend sur lui le jugement que nous avons mérité. On sait qu'il paye pour des coupables. On sait qu'il efface le casier judiciaire plein à craquer qui nous valait le jugement de Dieu. Jésus comble le fossé qui nous séparait de Dieu. Jésus permet à tous ceux qui placent leur confiance en lui d'avoir justement une place au paradis. Voilà pourquoi Jésus peut dire ici à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. » Il va préparer cette place en prenant le chemin de la croix au travers de sa mort et de sa résurrection. Et donc voilà la première raison pour laquelle Jésus est le seul chemin vers Dieu. C'est parce qu'il est le seul qui puisse nous assurer une place dans la présence même de Dieu. La deuxième raison dans ces versets pour laquelle Jésus est le seul chemin vers Dieu, c'est parce qu'il est la vérité et la vie. Parce qu'il est la vérité et la vie. C'est ce qu'il dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Comme on l'a dit dans ce passage, tout tourne autour du thème du chemin pour montrer que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et donc quand Jésus dit qu'il est aussi la vérité et la vie, en fait ça ne fait que renforcer cette idée-là que Jésus est le chemin pour accéder à Dieu. On va essayer de comprendre ça. D'abord, il affirme qu'il est la vérité. Pourquoi est-ce que Jésus est la vérité ? Bah parce qu'il est celui qui fait connaître Dieu lui-même. Jésus révèle qui Dieu est. Jésus nous permet de comprendre Dieu, de connaître Dieu et même de voir Dieu. C'est ce qu'on voit ici où il y a un lien très étroit dans ce passage entre Jésus le Fils et Dieu le Père. Regardez avec moi le verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Connaître Jésus, ça revient à connaître Dieu lui-même. Ou au verset 8, Philippe demande « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Philippe veut voir Dieu dans toute sa puissance. Il veut une manifestation directe de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que répond Jésus ? Verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Voir Jésus revient à voir Dieu le Père. Pas parce que Jésus et le Père seraient la même personne, non. Il s'agit de deux personnes distinctes, bien qu'ils soient tous les deux Dieu au sens fort du terme. Mais parce que Jésus est celui qui révèle le Père, qui fait connaître le Père. Jésus, c'est Dieu qui est devenu un être humain. Et il reflète si parfaitement Dieu le Père qu'on peut dire que voir Jésus revient à voir Dieu le Père. Alors pourquoi est-ce que Jésus est le seul chemin vers Dieu ? Bah, parce qu'il est la vérité, le seul qui peut nous faire connaître réellement qui Dieu est. Mais ensuite, dans cette même phrase, Jésus affirme aussi être la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça peut paraître surprenant que Jésus dise ça, justement, quelques heures avant de mourir. Quelques jours plus tard, son corps sera allongé, en train de gire dans un tombeau inanimé. Alors, est-ce que Jésus s'est trompé ? Est-ce que Jésus était trop prétentieux ? Est-ce qu'il a juste été ramené brutalement à la réalité ? Ben, on a déjà parlé de ça dimanche dernier en voyant la cinquième grande déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean. Juste avant de ramener Lazare qui était mort à la vie, Lazare était mort et Jésus l'a ramené à la vie. Juste avant ça, Jésus a affirmé, comme Joël l'a mentionné tout à l'heure, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » On a vu qu'il n'était pas question ici de vie physique uniquement, mais de vie éternelle. Jésus, c'est celui qui peut faire vivre éternellement. Jésus, c'est celui qui peut nous permettre de vivre pour toujours, même au-delà de notre mort physique. Et comment est-ce qu'il fait ça ? Justement, en mourant. Jésus meurt pour nous donner la vie. Et donc celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Parce que là encore, par le chemin qu'il a pris jusqu'à la croix, il a rendu la vie éternelle possible. La vie éternelle trouve son origine en lui. Donc voilà une autre raison pour laquelle Jésus est le seul chemin vers Dieu, selon ce passage. Non seulement parce qu'il est la vérité, celui qui fait connaître Dieu, mais aussi parce qu'il est la vie, celui qui nous permet de vivre pour toujours avec Dieu. Et la troisième raison dans ce texte pour laquelle Jésus est le seul chemin vers Dieu, c'est parce qu'il va prendre le chemin pour devenir le chemin. Il va prendre le chemin pour devenir le chemin. On a dit que cette déclaration de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'était une déclaration controversée, ou en tout cas qui allait à contre-courant du monde aujourd'hui, on y reviendra. Mais on doit réaliser que quand Jésus dit ça, il n'est pas au milieu d'un amphithéâtre romain en train de parler à une foule. Il n'est même pas en train de discuter, de débattre avec des pharisiens. Non, quand Jésus dit ça, il est en train d'avoir une conversation privée avec un petit groupe de ses disciples. Il est dans une discussion avec eux concernant son départ, qui est proche. Jésus a annoncé qu'il allait partir, et les disciples ont un peu de mal à comprendre ce que ça signifie. Ils sont vraiment à côté de la plaque. Quelques versets avant notre passage, chapitre 13, verset 36, Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu ? » Il ne comprend pas où va Jésus. Et Thomas lui-même, dans notre passage, il dit à Jésus, au verset 5, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Thomas est honnête, Thomas est franc, il n'a rien compris. Les disciples veulent savoir où Jésus va physiquement et le chemin pour le rejoindre. Ils sont un peu en mode, mais Jésus t'inquiète, dis-nous où tu vas, nous on a Google Maps, on pourra te rejoindre, dis-nous juste où tu vas. On connaît le chemin, on pourra y aller. Ils sont vraiment à côté de la plaque, ils cherchent quelque chose de physique, de littéral, mais Jésus leur dit, non, c'est pas de ça dont je suis en train de parler. Ils n'ont pas saisi que Jésus est en train de parler d'un chemin que lui va prendre, qui est réservé à lui seul. C'est ce qu'il dit à Pierre au chapitre 13, le verset 36. « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Dans cette partie de l'évangile de Jean, comme on l'a dit, on a les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant le moment fatidique. Quelques heures plus tard, Jésus devra prendre un chemin qu'il est le seul à pouvoir emprunter. C'est un chemin unique, le chemin de la croix. C'est un chemin qui l'amènera à être mis à mort comme un criminel, bien qu'il soit innocent. C'est un chemin qui l'amènera à être insulté, craché au visage, rejeté, méprisé, en train de souffrir dans l'humiliation la plus totale. Un chemin qui l'amènera à boire la coupe de la colère de Dieu, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune condamnation pour le peuple de Dieu. Un chemin qui l'amènera à être mis à mort et déposé dans un tombeau. Un chemin qui l'amènera à ressusciter 3 jours plus tard, vivant et vainqueur sur la mort, vainqueur sur le péché. Un chemin qui l'amènera à monter au ciel dans la gloire qu'il avait de toute éternité pour régner en souverain de cet univers. Oui, Jésus est sur le point de prendre un chemin qui est unique. Un chemin qui l'amènera à devenir le chemin pour tous ceux qui placent leur foi en lui. Et c'est parce qu'il va prendre le chemin de la croix qu'il peut dire à ses disciples, « Vous en connaissez le chemin. Pourquoi ? » Mais parce que vous me connaissez, moi qui suis ce chemin, pour accéder à Dieu. Alors pourquoi est-ce que Jésus est le seul chemin vers Dieu ? Parce qu'il est le seul qui a pu prendre le chemin de la croix afin de devenir le chemin pour vous et moi. Et ça nous aide à comprendre, ce texte nous montre pourquoi Jésus est le seul chemin vers Dieu, mais je crois qu'on a maintenant besoin de voir un peu plus ce qu'implique cette déclaration de Jésus, de voir comment elle confronte chacun de nous, là où nous sommes, mais aussi comment elle nous réconforte et comment elle présente une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Donc j'aimerais mettre en avant trois implications de cette réalité pour nous aujourd'hui. La première, il n'y a pas plusieurs vérités, mais une seule. Il n'y a pas plusieurs vérités, mais une seule. C'est assez clair dans ce que Jésus dit ici. Il ne dit pas qu'il est une vérité parmi d'autres. Il ne dit pas qu'il est une manière d'accéder à Dieu parmi d'autres. Il dit qu'il est la vérité. Il dit que c'est lui et lui seul qui permet d'accéder véritablement au Dieu de l'univers. Et il faut dire que cette affirmation de Jésus va profondément à contre-courant de ce que l'on vit et de ce que le monde croit aujourd'hui. On aime cette image populaire qui représente Dieu comme étant en haut d'une montagne. Dieu est au sommet de la montagne, et puis il y a plusieurs chemins qui mènent au sommet de la montagne. Donc plusieurs chemins, mais au final, ça amène au même sommet. Et on se dit que les différents chemins représentent les différentes religions dans le monde. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs religions, mais au final, tout le monde arrive au même sommet. Tout le monde arrive à Dieu. C'est une image populaire et cette façon de penser est très présente aujourd'hui, partout autour de nous. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous dire « Mais toi, tu es chrétien, c'est ce que tu crois, c'est super, ça te fait du bien. Mais moi, j'ai ma religion et ça me convient. » Ou encore « Toi, tu crois que Dieu existe, c'est super, ça va bien pour toi, ça te convient. Mais moi, je crois que Dieu n'existe pas. C'est très bien pour moi, ça me convient. » Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que chacun a sa vérité. Il n'y a pas une vérité absolue qui est vraie pour tout le monde, toutes les époques, peu importe sa situation, mais il y a plusieurs vérités. En fait, chacun peut avoir sa vérité, et encore plus en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne la religion. Chacun peut avoir sa conception de Dieu, chacun peut avoir son moyen de considérer qui Dieu est, chacun peut imaginer le chemin qui lui convient le plus sur le marché des spiritualités pour trouver accès à ce qu'il pense être Dieu. Mais si on prend le temps d'y penser, cette façon de voir les choses ne tient pas la route. Parce que comment est-ce qu'on peut affirmer que deux choses sont vraies en même temps alors qu'elles se contredisent? Par exemple, si quelqu'un affirme que Dieu existe et quelqu'un d'autre affirme que Dieu n'existe pas, comment est-ce qu'on peut dire que les deux ont raison? Toi, tu crois que Dieu existe, c'est vrai pour toi, c'est bien, mais moi je crois que Dieu n'existe pas et c'est vrai pour moi. Ben non, on ne peut pas dire ça. Parce que faire ça, ce serait nier un des principes élémentaires de la logique, la loi de non-contradiction que Aristote a mis en avant. Alors, je vous épargne des détails, mais en gros, ce qu'il met en avant, c'est que c'est impossible d'affirmer en même temps et de la même manière une chose et son contraire. C'est impossible d'affirmer en même temps et de la même manière une chose et son contraire. Donc, c'est soit Dieu existe, c'est vrai, c'est réel, et c'est le cas pour tout le monde, peu importe s'il croit que Dieu existe ou pas. Ou alors, Dieu n'existe pas, et là encore, c'est vrai, c'est réel pour tout le monde, même pour ceux qui croient que Dieu existe et qui se trompent. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Et si on y réfléchit, il y a aussi beaucoup de contradictions dans l'image que je mentionnais de Dieu qui serait en haut d'une montagne, avec plusieurs chemins pour y accéder. D'abord, de quel Dieu est-ce qu'on parle en haut de cette montagne? Le Dieu de l'islam? Le Dieu de la Bible? Et puis, pourquoi est-ce qu'on parlerait d'un Dieu? Et pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de plusieurs dieux, comme dans l'hindouisme? Mais même au-delà de ça, ça n'a pas trop de sens de dire que toutes les religions sont vraies, que toutes les religions ont raison et permettent chacune d'accéder à Dieu. Parce qu'il y a dans les différentes religions des vérités qui s'excluent mutuellement. Par exemple, les chrétiens vont affirmer que Jésus est Dieu, c'est le Fils de Dieu venu sur terre, qui est mort sur une croix. Et nos amis musulmans vont affirmer que Jésus n'est pas Dieu, c'était un prophète, c'était un simple homme, oui, c'était un prophète, et il n'est pas mort sur une croix. On ne peut pas dire que les deux ont raison en même temps et de la même manière. Soit l'un a raison et l'autre a tort, soit c'est l'inverse, mais ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison en même temps. Ou alors, on ne parle pas du même Jésus. Mais je pense comprendre pourquoi on dit tout ça et pourquoi on veut... Enfin, cette manière de penser est attirante. C'est souvent à cause d'un désir de tolérance. On a vu les dégâts terribles qu'a pu causer la religion, les guerres, les haines, les querelles. Et on ne veut pas que ça se reproduise. Encore aujourd'hui, on voit ça et c'est terrible. Et donc on veut mettre en avant la paix, le vivre ensemble, la tolérance. Et c'est une bonne chose. On doit poursuivre cela. Ce n'est pas parce que mon ami est musulman, juif, athée, chrétien, que je dois le mépriser, que je dois avoir de la haine envers lui. On a besoin d'apprendre à vivre malgré nos différences. On a besoin d'apprendre à nous tolérer les uns les autres. On a besoin d'apprendre à discuter de ces sujets sans se taper dessus. On a besoin d'apprendre à débattre sans avoir la haine qui jaillit dans le cœur. Mais ne mettons pas de côté la recherche de vérité au profit de la tolérance. Et malheureusement, je pense que c'est ce qu'on fait trop souvent. On met de côté la recherche de vérité au profit de la tolérance. Non, parce qu'on peut, tout en se tolérant les uns les autres, discuter, argumenter, échanger, remettre en cause certains points de vue, pointer du doigt certaines erreurs, certaines faiblesses d'une conception de la vie, se remettre mutuellement en question pour s'assurer que ce que l'on croit est vrai. En fait, je crois même qu'on doit faire cela. Chacun d'entre nous, chercher la vérité, s'assurer que ce que l'on croit est juste, cohérent, réel. Et je crois qu'on doit faire ça les uns envers les autres, se questionner, s'interroger, soulever les problèmes que présentent nos différents points de vue. C'est ce qu'on fait dans plein d'autres domaines, dans le sport, dans la politique, dans le cinéma. On débat, on essaie de se convaincre les uns les autres, de montrer pourquoi on a raison, Alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour un domaine si important que celui qui concerne notre âme, que celui qui concerne notre destinée éternelle? Ces paroles de Jésus, chers amis, nous appellent à creuser, pour chercher la vérité, pour se demander si ce que l'on croit nous donnera réellement accès à Dieu. Et mieux vaut s'en rendre compte maintenant que trop tard. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et je me souviens que je me suis plusieurs fois posé la question quand j'étais petit, quand j'étais enfant, ado, mais pourquoi est-ce que nous, on aurait raison et tous les autres tort? Pourquoi est-ce que je devrais croire mes parents qui sont chrétiens évangéliques et pas devenir musulman, bouddhiste, athée ou je ne sais quoi d'autre? Pourquoi Jésus et pas une autre religion? C'est une question légitime à se poser. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions difficiles, de remettre en question ce que l'on croit, surtout si on a grandi dans une famille chrétienne. Mais il faut que ces questions soient suivies d'une recherche de la vérité, de ce qui est vrai. Et je crois sincèrement qu'en faisant cette recherche, la seule conclusion possible, c'est de dire que Jésus est le seul qui est réellement celui qu'il a dit être. Il n'est pas question d'étiquette, mais il est question de savoir ce qui est vrai, ce qui fonctionne réellement. Le théologien Don Carson a dit ceci, a écrit ceci. Nous ne croyons pas à Jésus-Christ à cause d'un désir indéfini de connaître la joie, mais parce que la foi chrétienne bibliquement définie est vraie. Jésus est bien ce qu'il affirme être et lui seul fait disparaître notre culpabilité devant Dieu. Nous ne devons pas croire en Jésus, nous ne devons pas croire en Jésus parce qu'on est né dans une famille chrétienne, juste pour suivre nos parents, ou parce que c'est ce que ma culture m'a dit de faire, ou alors parce que je trouve que c'est ce qui est le plus attirant sur le marché des spiritualités, comme je disais. Voilà, la foi chrétienne évangélique, c'est ce qui me semble le plus pertinent, ce qui me convient le mieux, et donc je vais croire à cela. Non, on doit croire en Jésus parce que la foi chrétienne telle que la Bible la présente est vraie. Oui, Jésus est bien ce qu'il a affirmé être. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu venu sur terre, et il l'est réellement. Il a dit être le seul chemin pour accéder à Dieu, et il l'est réellement. Il a dit être le seul qui détient la vérité absolue, et il l'est réellement. Il a dit être le seul qui peut nous donner la vie éternelle, et il l'est réellement. C'est pour cela que nous croyons en Jésus, et c'est pour cela que nous sommes appelés à croire en Jésus, parce que c'est vrai. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, je vous encourage à creuser. Je vous encourage à lire les récits de la vie de Jésus, les évangiles, à lire la Bible qui pointe vers Jésus. Je vous encourage, si vous avez un ami chrétien, à l'inonder de toutes vos questions difficiles pour voir si la foi chrétienne tient réellement la route. Et j'espère que vous verrez en faisant cette démarche, cette découverte, comment la foi chrétienne répond de manière pertinente aux questions les plus importantes de la vie. Il n'y a pas plusieurs vérités, mais une seule. Et ça nous amène à notre deuxième implication de cette vérité pour nous. Il n'y a pas plusieurs chemins, mais un seul. Il n'y a pas plusieurs chemins, mais un seul. C'est une des conséquences logiques de ce qu'on a vu jusque-là, et c'est ce que Jésus dit de manière assez explicite. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Comme si ce que Jésus avait dit n'était pas assez clair, pour être sûr qu'on ait bien compris ce que ça implique, Jésus ajoute « Personne ne peut venir à Dieu, sinon par moi. » Cette déclaration de Jésus est on ne peut plus exclusive. Le seul moyen d'accéder au Dieu de l'univers, c'est au travers de Jésus. Aucun autre chemin fonctionne. Tous les autres chemins sont des voies sans issue, des impasses. Jésus est le seul qui peut réellement donner accès à Dieu. Et on doit réaliser que ce n'est pas bizarre ou arrogant que Jésus dise ça ici. En fait, c'est juste normal et cohérent par rapport à tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait en venant sur terre. Si Jésus n'était pas le seul chemin pour accéder à Dieu, alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin de venir sur terre? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de revêtir la nature humaine, de s'incarner dans un petit enfant, de vivre sur cette terre, s'il y avait d'autres chemins pour accéder à Dieu? Si Jésus n'était pas le seul chemin pour accéder à Dieu, alors pourquoi est-ce qu'il a dû aller jusqu'à mourir sur la croix, prendre la colère de Dieu, subir cet atroce supplice? S'il y avait d'autres chemins, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Non, si Jésus n'est pas le seul chemin vers Dieu, sa vie et ses enseignements n'ont aucun sens. Donc Jésus ne dit pas ça par arrogance, il ne dit ça pas ça par mépris, mais il dit ça parce que c'est vrai. Il est réellement le seul qui puisse donner accès à Dieu. Et c'est ce que la Bible met en avant de manière plus générale. Et dans un sens, cette déclaration de Jésus résume l'essentiel de la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Pierre, dans un discours dans le livre des Actes, dira aussi quelque chose de similaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ça renforce ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne peut pas dire que toutes les religions sont vraies, que tous les chemins mènent à Dieu, peu importe ce que l'on croit. Non, parce que c'est la foi en Jésus seulement qui nous permet d'être réellement pardonnés de tous nos péchés. Dire ça, ce n'est pas arrogant, mais c'est simplement rechercher ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont vraies dans les autres religions, mais ça veut dire que ces religions ne peuvent pas sauver, ne peuvent pas réellement amener à Dieu. Et je crois honnêtement que c'est la conclusion à laquelle on arrive en comparant les différents systèmes de pensée dans le monde. Malheureusement, on n'a pas le temps de les aborder un après l'autre ce matin, ni même de les survoler, mais ils ont tous plus ou moins la même logique. Faire des choses pour accéder à Dieu. Faire pour accéder à Dieu. L'être humain doit faire des choses pour apaiser la divinité. L'être humain doit s'améliorer pour mériter l'accès à Dieu. L'être humain doit faire des bonnes œuvres pour compenser le mal qu'il a déjà commis. Faire. C'est ça la logique de toutes les religions et les systèmes de pensée dans ce monde. Mais le message que Jésus a apporté est radicalement différent. Il ne dit pas qu'il faut faire, mais il dit qu'il faut croire en ce qui a déjà été fait. Il nous dit: c'est fait, tout est accompli, le chemin est ouvert, l'accès à Dieu est rendu possible. La foi chrétienne telle que la Bible la présente ne nous dit pas que nous devons faire pour gagner accès à Dieu, parce qu'on ne pourra jamais faire assez. Qui de nous pourrait vivre à la perfection, même pour une journée, même pour une paire d'heures? C'est impossible. Non, la Bible nous dit que nous devons croire en ce que Dieu a déjà fait en Jésus. Et donc ce message que la Bible présente, si ça c'est vrai, exclut tout autre message qui présenterait les œuvres de l'homme comme nécessaires au salut. L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les différentes sectes dans ce monde, mais aussi le catholicisme romain qui rejette encore aujourd'hui officiellement et dans la pratique le salut par la grâce de Dieu seul. Ou encore un christianisme traditionnel, même évangélique, qui penserait qu'il faut faire des choses pour gagner accès à Dieu, qui penserait que c'est le fait de venir à l'église tous les dimanches, de donner un peu d'argent à l'église, qui nous permet de gagner accès à Dieu, ou qui ferait ces choses pour apaiser sa conscience. Non, ces chemins ne peuvent pas amener à Dieu. Ces chemins sont des impasses, ce sont des voies sans issue. Et je ne veux pas dire ça de manière arrogante, comme si je me vantais d'avoir raison, alors que d'autres ont tort. Je veux dire ça parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'état de nos âmes, la vôtre et la mienne, et de voir comment on peut être juste aux yeux de Dieu. C'est ça ce qui compte le plus, et je crois que seul un christianisme basé sur la Bible peut apporter ça. Et donc ça nous amène à la troisième implication de cette vérité. Pour nous aujourd'hui, pour terminer, il n'y a pas plusieurs bonnes réactions, mais une seule. Il n'y a pas plusieurs bonnes réactions à ce message, à cette déclaration de Jésus, mais une seule. Parce que si tout ce qu'on a vu jusque-là est vrai, alors ça appelle une réaction de notre part. Si Jésus est vraiment le seul chemin pour accéder à Dieu, alors il faut prendre ce chemin. Et vous devez choisir votre camp. Avec Jésus, c'est tout ou rien. Soit ce qu'il dit dans ces versets est vrai, et nous devons l'écouter et le suivre radicalement, soit c'est faux. Et nous devons le rejeter. Mais la seule chose que nous puissions pas faire vis-à-vis de cette déclaration de Jésus, c'est rester passivement assis, les bras croisés, en train de dire « c'est intéressant, j'y réfléchirai plus tard, j'ajouterai ça à la liste des options ». Non, c'est tout ou rien. On ne peut pas juste prendre un peu de Jésus et laisser le reste. Soit si ce qu'il dit est faux et le christianisme s'écroule, notre vie d'église n'a aucune raison d'exister, notre foi chrétienne n'a aucune raison d'exister, soit c'est vrai et nous sommes tous concernés. Et nous sommes tous appelés à répondre à ce message. Et si cette déclaration de Jésus peut paraître choquante, en fait, en réalité, elle est profondément réconfortante, elle est profondément belle, c'est une bonne nouvelle. Parce que oui, ce que dit Jésus ici, c'est exclusif, mais pas dans le sens où ce serait réservé à certaines personnes uniquement, les Juifs du 1er siècle, ou le petit groupe de disciples à qui Jésus s'adresse, ou les chrétiens évangéliques aujourd'hui. Non. C'est une déclaration universelle qui s'adresse à chaque être humain sur cette terre, encore aujourd'hui. C'est un chemin qui est ouvert à tous, peu importe sa religion, peu importe son système de pensée, peu importe son passé. C'est un chemin au travers duquel vous et moi, on est appelés à marcher. C'est le seul chemin qui permet de trouver le pardon des péchés, la paix de l'âme, une relation restaurée avec Dieu, la vie éternelle. Et prendre ce chemin, c'est tout simplement placer sa confiance en Jésus. C'est reconnaître qu'il est le seul qui peut me sauver et que j'y arriverai pas moi-même. C'est me détourner de mes fautes, de ma vie passée et vouloir suivre Jésus sur un chemin nouveau. À la fin de son évangile, Jean, qui a écrit ce texte, nous révélera la raison pour laquelle il a écrit tout ceci à propos de Jésus. Et il dira ceci: « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous aussi, aujourd'hui même, vous pouvez croire pour avoir la vie en son nom. Cette phrase de Jésus n'est pas choquante, mais elle est profondément belle. Il y a un chemin, il y a un moyen d'accéder à Dieu. Quelle bonne nouvelle! Cette phrase ne sort pas de la bouche d'un arrogant, mais cette phrase sort de la bouche du seul qui peut réellement dire cela, du seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Comme un ami l'écrivait dans un article, Jésus ne montre pas le chemin, il est le chemin. Il n'expose pas une vérité, il est la vérité. Il n'est pas un modèle de vie, il est la vie. Et pour terminer, j'aimerais juste m'adresser à deux groupes de personnes qui suivent ce culte. D'abord pour vous, peut-être que vous juste découvrez la foi chrétienne, vous êtes tombé sur ce culte YouTube en live, ou alors vous nous suivez depuis quelques semaines, depuis le confinement, ou alors vous êtes dans cette église depuis pas mal de temps. Mais vous ne diriez pas que vous pouvez vous approprier les paroles de ce que Jésus dit ici. Vous n'êtes pas encore prêt à faire face à Dieu. Ben, j'aimerais vous demander, mais est-ce que vous êtes venu à Jésus pour avoir la vie? Et qu'est-ce qui vous empêche de venir à Jésus pour avoir cette vie aujourd'hui même? Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Vous pouvez le faire aujourd'hui même dans une simple prière à Dieu, en ouvrant votre cœur au Dieu de l'univers, en reconnaissant vos péchés, votre misère, votre profonde dépendance envers lui. Mais si cette question n'est pas réglée pour vous, qui que vous soyez, je vous encourage à le faire encore aujourd'hui. Il n'est pas trop tard et il y a un jour où ce sera trop tard. En un clin d'œil, on sera tous devant le trône de Dieu pour rendre compte de la manière dont on a vécu, pour rendre compte de nos actions, de nos actes, de nos pensées, de nos paroles. Et aujourd'hui même, Jésus nous offre, par sa vie, par sa mort, sa résurrection, le pardon des péchés et un chemin tout tracé pour accéder au Dieu de l'univers. Si vous êtes travaillé par cela, je vous encourage à prendre contact avec nous ou avec un ami chrétien que vous avez pour parler de cela et pour ne pas laisser ça en suspens. Mais deuxièmement, j'aimerais m'adresser à nous qui sommes déjà au Seigneur, qui avons cru en Jésus, qui avons reconnu en lui le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que l'on vit comme si c'était réellement le cas? Est-ce que l'on vit comme si Jésus était réellement le seul chemin pour accéder à Dieu? Est-ce qu'on a peut-être des fois trop peur de heurter les sensibilités de nos amis, de nos collègues, pour leur faire connaître cette vérité, que s'ils n'ont pas cru en Jésus, il n'y a pas d'espoir pour leur âme. Est-ce que nous vivons comme si Jésus était le seul chemin pour accéder à Dieu? Je vais prier dans un instant, mais j'aimerais juste laisser avant un petit moment de silence, juste quelques secondes de silence, et c'est peut-être l'occasion pour chacun de nous de prendre un temps face à Dieu, et peut-être pour vous, si pour la première fois vous voulez prier à Dieu, pour demander pardon pour vos péchés, pour ce que vous avez fait, et pour croire en Jésus pour avoir la vie, c'est l'occasion de le faire avec vos propres mots, là où vous êtes, dans votre cœur ou à haute voix, comme vous le souhaitez. Et donc un petit temps de silence, et puis je terminerai en priant. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, parce que tu t'es révélé à nous. Nous te remercions pour ce que Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous te remercions parce qu'il y a un chemin pour accéder à toi, parce que nous pouvons être en bonne relation avec toi et avoir la paix de notre âme, l'assurance que ta bonne main nous garde. Merci pour ce privilège. Et je te prie, notre Dieu, pour que tu nous aides à partager cela autour de nous avec zèle, avec force, avec passion. Mais je te prie aussi pour des personnes qui assisterait à ce culte, qui regarderait ce culte et qui n'aurait pas encore fait la paix avec toi. Permets que ces paroles qui sortent de la bouche même de Jésus ne les laissent pas avec du répit, mais qu'ils puissent faire la paix avec toi avant qu'il ne soit trop tard, qu'ils puissent se mettre en règle avec toi. Nous te demandons cela dans le précieux nom de Jésus et pour sa gloire et dans la joie de savoir qu'il viendra nous chercher pour que l'on puisse vivre avec lui pour toujours. Et nous te remercions pour ta grâce que tu as manifestée avec abondance envers nous. Amen.